Bienvenue au Polysécure. Dans le cadre du Sécure, nous faisons l'entrevue les différents conférenciers pour approfondir leur sujet. Cette fois-ci, je suis avec Vanessa.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter?
Bien sûr. Donc, Vanessa Deschênes, je suis avocate chez Robic. En fait, je suis la leader de notre groupe protection des données, cybersécurité et vie privée. Donc, le nom le dit de lui-même. Essentiellement, je travaille dans le domaine de la protection des renseignements personnels. Donc, j'assiste les entreprises là pour les aider à implanter, si on veut, les bonnes pratiques là, au sein de leur organisation pour être conformes aux lois.
Super intéressant et super d'actualité en plus. Tu es venu au Sécure présenter sur Paris Cyberdesign. Est-ce que tu peux nous faire un aperçu de ta présentation?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait un survol du Privacy by Design, lequel est un concept qui n'est pas si nouveau que ça, qui date là, du début des années 90, mais dont on n'entend plus parler dans les dernières années parce que ça a été repris dans certaines lois, justement, en matière de protection des renseignements personnels. Donc, j'ai fait un survol de qu'est-ce qu'est le Privacy by Design. C'est un concept qui se décline en 7 grands principes. Donc, j'ai parlé de ces différents principes-là et j'ai aussi donné des exemples là, concrets de comment on peut implanter les principes du Privacy by Design au sein de nos organisations, puis un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça. Là.
Est-ce que tu peux nous lister les 17 principes en question?
Bien sûr. Donc, vous allez voir, les principes sont à très, très haut niveau et peuvent sembler redondants. C'est normal. Donc, soyez pas surpris. Le premier principe, c'est d'être proactif et non réactif. Donc, évidemment, le but du Privacy by Design, c'est d'implanter des mesures pour prévenir, donc d'être en amont et non d'être en mode réaction. Ensuite, le deuxième principe, c'est la vie privée ou la protection des renseignements personnels par défaut. Donc, encore là, quand on pense par défaut, c'est dès la création d'un produit, d'un nouveau service, on va vraiment avoir ces éléments-là en tête au niveau de la conception de nos technologies, de l'architecture d'entreprise, etc. Le troisième principe, qui est assez similaire, là, c'est la protection de la vie privée intégrée dans la conception. Le quatrième principe, en français, bon, se traduit un peu moins bien qu'en anglais, là, parce que c'est un concept à la base anglophone, mais je le traduirais comme la pleine fonctionnalité. Donc, on dit une somme positive et non nulle. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si on met en place des éléments de protection de la vie privée, protection des renseignements personnels, on est capable de le faire sans que ça soit au détriment d'autres fonctionnalités. Donc, on est capable de trouver un peu une approche, vous m'excuserez l'anglicisme, là, mais un win-win. Là. Donc, autant que ça soit fonctionnel, que ça soit attrayant, que ça soit en respect des lois. Le cinquième principe, c'est la sécurité de bout en bout, donc vraiment la sécurité de l'information, donc la protection des données tout au long du cycle de vie de l'information. Comme on le sait, l'information a un cycle, c'est-à-dire de sa collecte à sa destruction. Donc, le Privacy by Design veut vraiment qu'on prenne en considération là, tout le cheminement que va faire l'information. Le sixième principe, c'est visibilité et transparence. Donc, souvent, on l'associe à nos fameuses politiques de confidentialité, l'information que l'on rend disponible à nos clients, à nos consommateurs, que ce soit via nos sites web, que ce soit des documents, ou même des fois des fonctionnalités maintenant que les technologies nous permettent, des espèces de messages pop-up pour informer les gens. Donc, ça pourrait être une façon. Et le septième et dernier principe, c'est le respect de la vie privée de l'utilisateur en restant centré, en fait, sur l'utilisateur. Donc, c'est vraiment de mettre les droits des individus, les préoccupations des individus au cœur du développement de ces produits et services-là.
C'est effectivement très haut niveau en soi. Est-ce que tu peux donner quand même un peu d'exemples justement pour faire atterrir ces concepts-là dans des cas peut-être un peu plus précis? On a nommé certains, mais pas tous été ramenés au réel.
Oui, puis dans ma présentation, justement, ce que je mentionnais, c'était c'est un concept qui est super beau. Personne n'est contre la vertu. Mais effectivement, c'est à très haut niveau et ça devient une des raisons, en fait, pourquoi c'est pas tant utilisé que ça ou tant connu, connu que ça au sein de nos organisations, c'est justement parce que ça peut être difficile d'implantation. Puis je m'explique. Si je parle à des gens qui sont très TI, donc nos fameux développeurs, ceux qui sont vraiment comme dans l'architecture d'entreprise et tout ça, ces gens-là, ils ont besoin d'instructions claires. Donc, c'est blanc, c'est noir, je vais coder pour aller à gauche, à droite, 0-1. Donc, on a vraiment besoin de quelque chose de clair. Puis, quand on tombe dans des concepts plus juridiques, puis vous le voyez avec les principes de Privacy by Design, on est très dans la zone grise, dans le flou. Et donc, c'est ce qui fait que souvent, le juridique versus les gens plus TI, ben ils se comprennent pas bien, tu sais. Il y a comme un gap entre les deux. Et donc, la façon, en fait, de l'implanter de façon plus concrète, c'est un outil auquel je pense, puis on le voit là, dans le projet de loi 64 notamment, puis au niveau fédéral aussi, c'est les fameux PIA ou les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, en ayant ces évaluations-là, dès le départ, une espèce de checklist, là, lorsqu'on lance un nouveau produit, là, par exemple, je donne un exemple, on développe une application mobile, bien, c'est de se poser les questions. Donc, avant même de la développer, c'est de se dire, OK, à qui je m'adresse? Quels sont les renseignements que je vais collecter? Pourquoi je vais les collecter? Et de s'assurer que tout au long du processus, que ce soit au niveau du développement, de la conception, de la mise en marché, mais ce que je cherche, la mise en production, pardon, c'est vraiment de s'assurer à chacune des étapes de développement de notre produit ou de notre service qu'on a les éléments de protection des renseignements personnels en tête, qu'on offre la possibilité que ça soit codé, par exemple, que l'individu va pouvoir utiliser ses droits, que ce soit en cochant ou en décochant l'information qu'il veut ou pas donner. Un exemple avec les consentements en ligne, tu sais, du Privacy by Design, c'est d'intégrer des fois des petits points d'interrogation à côté d'un champ ou lorsque la souris se promène sur le champ, qu'il y a une espèce de message qui vient dire, OK, ben nous collectons par exemple l'adresse courriel parce que là, on veut faire X, Y, Z. Fait que c'est des façons d'utiliser la technologie de façon, je dirais, facile, puis d'intégrer le Privacy by Design comme ça.
Aider les utilisateurs. Donc, incidemment, tout le changement avec iOS 14.5 est un élément majeur. Même, je crois que la quasi-totalité des 7 principes ont été intégrés d'un coup aux grandes dames de certains grands joueurs du numérique. Est-ce que tu as eu le temps de regarder ça un peu par rapport à cette conception-là?
Oui, bien, c'est sûr que, bon, là, on parle d'iOS, on parle d'Apple. Puis je l'ai effleuré un peu là, dans ma présentation. La protection des renseignements personnels, aujourd'hui, c'est rendu un impératif stratégique puis même un avantage concurrentiel. Donc, il y a des entreprises qui l'ont compris, puis il y a des entreprises comme Apple qui se sont dit, OK, ben moi, je vais en faire un peu un avantage concurrentiel puis je vais mettre ça de l'avant parce que je sais que la population a ce souci-là. Bon, là, il y a des gens qui critiquent un peu leur approche en disant oui, ils se nomment défenseurs de la protection des renseignements personnels, mais par la porte arrière, sans vouloir développer d'autres façons d'aller collecter l'information d'une façon plus subtile. Donc, l'avenir nous dira à quel point ce qu'ils mettent en pratique, c'est vraiment ça. Mais oui, c'est un bon exemple, en fait, de Privacy by Design. T'sais, le but du Privacy by Design, c'est de redonner, si on veut, le contrôle à l'individu. Donc, une approche comme on voit avec iOS où on doit systématiquement demander à l'utilisateur s'il consent à ce qu'on utilise ses données GPS, son micro, etc. C'est un exemple parfait là, de concept, là, de ce concept-là.
Oui, donc toutes les fiches maintenant là, d'informations qui expliquent qu'est-ce qui est recueilli sur chaque utilisateur par chaque application, c'est particulièrement intéressant de commencer à les consulter. Là. Je suis allé avoir quelques-unes sur mon appareil. Et des fois, c'est un peu étonnant tout ce qui vient puiser dans nos vies. Est-ce qu'on autorise de façon explicite ou implicite par rapport à ce genre de choses-là? Justement, tu mentionnais du côté l'obligation du explicite qu'on voit malheureusement pas. Y a-t-il des stratégies que tu proposes? Parce que j'imagine que tu conseilles des gens là-dessus aussi, des compagnies là-dessus?
Tu veux dire au niveau du explicite, d'être plus transparent ou...
D'aider les concepteurs à intégrer ce genre de choses-là, de les... Là, on l'a vu avec iOS le fait, mais dans ta pratique, quel genre de conseils tu peux donner à des entreprises justement pour aider à cheminer vers ces 7 principes-là?
Oui, bien, moi, souvent, ce que je dis, là, c'est drôle parce que les entreprises, souvent, sont réticentes parce qu'ils pensent que s'ils sont transparents ou s'ils donnent cette information-là ou à leurs clients ou aux consommateurs, bien, ils ont peur de leur faire peur. Donc, il y a des gens qui sont un peu réticents. Puis finalement, ce que les statistiques nous démontrent, autant en matière de protection des renseignements personnels que dans le domaine du marketing, c'est que l'utilisateur... plus souvent qu'autrement, il va être ouvert à donner son information. Fait que le consommateur, c'est pas qu'il veut pas donner son information. Ce qu'il veut, c'est savoir pourquoi il la donne, puis il veut être informé dans le fond. Et donc, ce que je dis souvent à mes clients, c'est ayez pas peur, soyez transparent. Puis finalement, les entreprises restent surprises que lorsqu'ils amènent cette transparence-là, puis ils prennent le temps de mâcher aussi l'information. Hein, le but, c'est pas d'écrire ça de façon tellement technique que la personne comprenne pas plus. On n'a pas atteint notre but. Donc, quand on prend le temps d'expliquer cette information-là, ben étrangement, ou ben, en fait pas étrangement, mais tant mieux, c'est le client, le consommateur, il va la donner cette information-là parce que finalement, il comprend pourquoi il la donne, puis il comprend que pour lui aussi, il y a un bénéfice à donner cette information-là.
Très intéressant. Est-ce que les départements marketing se présentent comme étant des adversaires, disons, dans ce contexte-là et comment ça se représente?
Bien, c'est une bonne question. Je te dirais oui et non dans ce sens où, puis tu sais, moi, j'ai vu le discours là, évoluer dans les dernières années. En toute honnêteté, les secteurs de marketing, personnellement, c'est des gens avec qui j'ai pu avoir dans le passé des discussions houleuses parce qu'effectivement, c'est des gens qui voyaient beaucoup l'aspect légal comme un empêcheur d'avancer, un empêcheur d'innover, de développer la marque, etc. Puis finalement, on se rend compte qu'en bout de ligne, tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire que vous ayez un conseil juridique qui vous aide à l'externe ou à l'interne. Ce qu'il veut, c'est protéger l'entreprise, il veut vous assurer que vous soyez conforme et tout ça. Il veut le bien de l'entreprise. Le département du marketing, il veut la même chose, il veut le bien de l'entreprise, il veut continuer à la faire croître, à aller chercher des nouveaux clients et tout ça. Donc, quand finalement, on s'assoit puis on se rend compte que tout le monde a le même objectif, bien, je dirais que ça rouvre, ça laisse place à un dialogue, à une compréhension de part et d'autre. Puis après ça, tout le monde est capable de travailler main dans la main. Donc, fait que je pense vraiment que souvent, c'est une mauvaise perception de l'un de l'autre. Là. Donc, puis de plus en plus, les gens en marketing sont au courant de ces nouvelles normes-là. Puis même souvent, c'est eux qui arrivent avec des façons de faire super innovantes, puis ou qui vont nous suggérer un langage moins juridique, mais justement beaucoup plus accessible pour le consommateur. Parce que ça aussi, ça a été reproché dans les dernières années. On a vu des politiques de confidentialité qui étaient tellement longues, qui étaient tellement rédigées dans des langages juridiques que, tu sais, encore là, la personne ne comprenait pas plus ce qu'elle lisait, tu sais.
Ouais, c'est moins utile. Ben, c'est très intéressant que ces ponts-là se construisent, puis justement que la communication puisse aider globalement à avancer. Très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que j'aurais pas couvert, que tu aurais aimé discuter?
Ben non, je pense que dans le fond, c'est ce qui résume bien le privacy by design puis la tendance à l'heure actuelle, c'est simplement de se poser la question de pourquoi on collecte les données, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis comment on peut faire pour bien informer notre client, notre consommateur. Puis une fois que ça c'est fait, ben notre client, notre consommateur va être fidèle, va avoir confiance en notre organisation. Puis après ça, c'est vraiment une relation qui se construit là.
Tout à fait. Ben super. Je te remercie énormément d'avoir présenté au Sécur et d'avoir t'être prêté au jeu du podcast, justement pour pouvoir propager cette information-là. Merci énormément.
Merci à toi.